France privée à Rimont par le père Marie-Dominique Philippe, le 22 octobre 1987.
Soyez unis à ceux qui font le pèlerinage. Soyez unis à ceux qui font le pèlerinage de Jérusalem. Faites-le d'une manière tout intérieure. En pensant à eux, parce que c'est le pèlerinage quand même de la communauté Saint-Jean. Et tous ceux, les amis, les parents qui font ce pèlerinage, il faut qu'ils reçoivent de l'Esprit Saint et de Jésus de grandes grâces, de vous le demander. N'oubliez pas cela. On m'a montré tout à l'heure que une lettre du Père Damien, écrite à son oncle, pour ne pas le nommer, annonce qu'il est aumônier d'un camp militaire. C'est bien ça. Ça ne m'étonne pas du Père Damien. Et il dit que dans ce pays, il faut beaucoup de patience. On aperçoit aussi, on voit bien ce que ça veut dire. On m'a demandé pour les conférences du soir avec beaucoup de souplesse, parce que on les suit, de reprendre avec vous l'Apocalypse de Saint Jean pour l'année mariale, c'est bien. vraiment, on lisait l'Apocalypse, on n'aura pas besoin de drogue. Parce que c'est le grand aliment de l'espérance. La drogue, c'est parce que quand on est un peu sans force, on a besoin d'un coup de fouet, d'un bon coup de fouet. Et c'est ça l'Apocalypse, c'est très étonnant. On le lit pas assez l'Apocalypse, ça j'en suis convaincu. Et l'année mariale doit être pour nous comme justement un désir d'entrer très à fond dans ce livre. Difficile. Et après tout, on doit aimer la difficulté. Ceux qui n'aiment pas la difficulté, ils sont jamais forts. C'est comme pour les alpinistes, hein. Il faut aimer les difficultés. Il faut aimer les terrains difficiles, il faut aimer les montées difficiles. Parce qu'alors à ce moment-là, on a beaucoup plus de joie de voir qu'on a dépassé la difficulté. Vous voyez, le premier problème qui se pose, je ne vais pas le traiter au point de vue exégétique, parce que c'est d'abord très complexe, j'en ai beaucoup parlé avec le père Braun, puisque j'étais avec le père Braun à Fribourg. C'était le grand sujet auquel on revenait tout le temps, et comme on était très amis. Les dates sont toujours très difficiles. Je crois que ce qui est donné d'une façon générale, qui est du reste intéressant, c'est que l'Apocalypse a été écrit avant l'évangile de Saint Jean. Et je le crois personnellement. J'ai ma petite idée là-dedans, vous savez bien, entre Saint Jean et Saint Luc. Mais le père Braun l'avait aussi, ça. Et le père Spic aussi. Que Saint Luc a puisé beaucoup à Jean dans son évangile. Jean et Marie. Surtout quand vous voyez les dates de l'évangile de Saint Luc, quand vous voyez un tout petit peu ce que c'est que Saint Luc, un homme intelligent, artiste, un chercheur, mettez-vous un instant dans la peau de Saint-Luc. Marie, peut-être, vit encore avec Jean. C'est impossible que quelqu'un comme Saint-Luc n'ait pas eu le désir de puiser à la source. Il le dit du reste au début. Pas possible. On l'aurait tous fait. Donc il y a sûrement une influence grande de Jean sur lui. Mais Luc, comme c'est un intellectuel, et puis c'est l'époque, c'est ce temps-là, c'est comme ça, dans notre monde d'aujourd'hui. Mais le Saint-Esprit n'a pas voulu que les évangiles s'écrivent dans notre monde d'aujourd'hui. Hein. Il a bon goût, le Saint-Esprit. Il n'a pas voulu que ce soit dans notre monde d'aujourd'hui. Dans notre monde d'aujourd'hui, on aurait mis les références. Voilà ce que Jean m'a dit. Et derrière, Jean certifiait que c'était bien Marie. C'était Marie, c'était de source tout à fait sûre. Il y aurait eu des notes, et il y aurait tout un apparat critique. Ce qui est très extraordinaire, c'est que ce sens-là, la sagesse se communique sans envie, et dès qu'elle se communique, c'est notre propre bien. Je me souviens, à Fribourg, c'était une thèse de doctorat. On a dépisté qu'un étudiant avait copié presque littéralement 40 pages sans mettre aucune référence. Et c'était un livre sur Heidegger. Alors quand je lui ai dit, écoutez, c'est un peu gênant, 40 pages. Mais comment se fait-il qu'on n'ait pas mis une seule note? Même pas Et je me souviens très bien comment il avait fait. Il avait son le cahier sur Heidegger. Il avait lu. Puis il avait oublié complètement de mettre des références. C'est quand il a repris la reprise. Il n'en fait aucune référence. Il ne savait même plus d'où ça venait. Je lui ai dit, mais c'est lui. Je lui ai dit, mais oui, mais c'est moi aussi. Mais non, c'est écrit avant vous. Vous voyez ? Je lui ai montré. Non, on ne peut pas faire ça dans une thèse, mais on peut faire ça quand on écrit un évangile. Parce qu'un évangile n'est pas une thèse. Un évangile, c'est un bien commun dont un prend la responsabilité. Et c'est un bien commun. C'est ça qui est très étonnant. Du reste, ça a été longtemps comme ça. Vous savez, dans Saint-Ambroise, il y a des pages entières de Plotin qui sont copiées. Et les saints, comme ça, Luc, c'est bien commun. On n'a plus du tout ce sens-là. Hein. Plus du tout. C'est très beau, du reste. Mais je trouve ça très beau. Ça, là, Luc a puisé énormément avec chez Jean. Moi, j'en suis sûr. Alors, on rêve toujours d'un évangile de Saint-Luc sur lequel on puisse marquer tout ce qui est de Jean. On ne pourra pas le faire, ça me suffit de le faire. Mais on peut le faire pour soi, c'est pas scientifique, mais on peut le faire pour soi. Marquez dans l'évangile de Saint-Jean, quand vous lisez Saint-Luc, ayez ce souci-là. La source Marie-Jean, la source, et découvrez ça. Alors, il y a des choses... sent très bien, évidemment, le début de l'évangile de Saint-Luc, ça c'est sûr. Mais même après, dans la vie un peu solide de Jésus. Je crois que Jean, ayant communiqué à Luc tout ce qu'il pouvait communiquer, et comme déchargé de ce souci d'écrire un évangile, je crois. Il était tellement proche de Jésus, tellement proche de Marie, que c'était difficile pour lui d'écrire un évangile. D'une façon tout à fait différente, mais je me souviens très bien, le père Finet me disant, j'étais trop proche de Marthe, je ne pourrais jamais écrire sur elle. Et on comprend très bien. Quand on est très proche de quelqu'un, on n'a pas envie du tout d'écrire. Et vous voyez, c'est... ça explique du reste ce que Jean met à la fin de son évangile en disant que s'il avait tout raconté, l'univers entier n'aurait pas pu contenir tout ce qu'il aurait voulu dire. Tellement en lui, c'était infini. Il était tellement pétri de l'enseignement de Jésus. Toujours est-il qu'il me semble qu'on peut dire Luc écrivant beaucoup mieux le grec que Jean. Jean se trouve comme déchargé de cette responsabilité. Il prêchait, c'est sûr, il y avait une tradition joannique. Et puis, Jean connaît cette période qui a dû être pour lui quelque chose de très extraordinaire, d'être le dernier représentant des apôtres. On n'y pense pas assez, ça. Cette génération ne passera pas avant que le Fils de l'homme reviendra. Et Jean est le dernier de cette génération des apôtres, ça représente quelque chose. Dernier témoin, il était le plus jeune, il reste le dernier, et il meurt le plus vieux, sans doute. Et Jean connaît les premières persécutions. Jean connaît ce fait d'être rejeté de ses églises à Patmos. Et à Patmos, l'Esprit Saint l'attendait. Ça a dû être quelque chose pour Jean de recevoir cette révélation. Il ne dit pas comment. Là encore, il est de son temps. D'une autre, Jean Guiton aurait fait une préface pour dire comment l'Esprit Saint l'avait éclairé et illuminé. Il y aurait eu des tas de choses pour dire oui. Oui, autre chose, ma réflexion philosophique, autre chose, cette inspiration. vibration subite qui me prend et qui me saisit. Ou le père Laurent, n'est-ce pas, l'abbé Laurentin aurait fait aussi savoir si où jouait exactement l'inspiration. C'était quelque chose d'objectif, l'apocalypse, subjectif, imaginaire, intellectuel, pas commode. Jean, il dit simplement, en extase. C'est bien avancé. Mais c'est quand même très beau, en extase. A-t-il écrit en extase? A-t-il dicté le vieux Saint-Jean? C'est le vieux Saint-Jean. Et qui regarde ses églises, qui ne sont plus directement avec lui. Et alors, ce regard, on le verra, c'est si impressionnant. Sur chaque, tu sais, à la fois l'affection et en même temps, obligé de reconnaître la correction divine de ses églises. Le vieux Saint Jean. Je crois que Saint Jean, ayant reçu l'Apocalypse, n'a plus du tout le même regard sur l'Église. Il faudrait mettre avant et après, vous voyez. Je crois. Ça me semble impossible autrement. Pour chacun d'entre nous, c'est un peu comme ça. Quand on entre vraiment dans l'Apocalypse, on n'a plus le même regard sur l'Église. Il y a quelque chose de différent. C'est à partir de là que je comprendrai comment il se met à écrire la première épître. Et puis l'évangile. La première des épîtres, quoi. Et l'évangile. Il écrit l'évangile pour ceux qui vivront les grandes luttes apocalyptiques. Je crois que quand on a reçu un secousse aussi forte que celle de l'Apocalypse. Il y a des quantités de choses qui peuvent se dire et qui avant ne pouvaient pas se dire. Qui étaient comme des secrets qu'il avait reçus de Marie. Et qui dit qu'elles sont dites à travers l'Apocalypse, dans cette révélation personnelle qu'il lui donnait. Il peut les communiquer. Parce qu'il y a une belle unité profonde, doctrinale, entre l'Apocalypse et l'Évangile de Jean. Que ça me semble impossible qu'il n'y ait pas eu cette secousse qui permet de livrer les secrets. L'Évangile de Jean, c'est quand même des grands secrets. Qui ne pouvait se dire que pour cette Église qui vit les grandes luttes. C'est pour ça que l'Évangile éclaire l'Apocalypse et l'Apocalypse aide à comprendre l'Évangile. Il y a deux aspects qui sont complémentaires. Vous voyez, c'est quand même très curieux. Vous avez Luc, qui donne son Évangile, puis les Actes des Apôtres. Et vous avez Jean, qui donne son Évangile et qui donne l'Apocalypse. Ou l'inverse, qui donne l'Apocalypse et qui donne son Évangile. Vous avez donc le mystère de Jésus, qui encadre tout le mystère de l'Église. Prenez simplement ça. Luc, Évangile, Actes des Apôtres. Donc, les premiers pas, le commencement de l'Église. C'est si impressionnant, le commencement de l'Église. Jean, l'Apocalypse. n'ajoute rien. Le blaireau ne n'ajoute rien au point de vue de l'intelligibilité, au point de vue scientifique, si ce n'est cette manière particulière de vivre la grâce dans la sacramentalité. Et le cardinal Journet, lui, a voulu compléter dans une théologie scientifique la somme théologique de saint Thomas. Je ne sais pas si ce n'est pas une erreur. Tandis que le père Congar lui a compris que l'Église, c'était un autre regard. C'était le vivant. Et je crois la faiblesse de la théologie du père Congar, c'est qu'à la place d'avoir une philosophie du vivant qu'il n'avait pas, il a pris l'aspect biologique. Quelques aspects biologiques. Mais quand il dit que la vie est périphérique, il le dit. Ben, la vie est périphérique, on ne dit pas ça dans une philosophie du vivant. Dans une philosophie du vivant, on dit que c'est l'âme qui est source de la vie. Tandis qu'au point de vue biologique, vous pouvez dire que la vie apparaît de façon périphérique. C'est vrai. Les maladies se manifestent à l'extérieur. Les maladies de la peau, c'est périphérique. Mais la vie n'est pas périphérique. Et ça, c'est très important de comprendre, parce que ça fait tout de suite considérer que les luttes sont périphériques. Alors, c'est ça qui devient intéressant. On s'intéresse plus à l'aspect extérieur de la manifestation qu'à l'aspect intérieur. Donc, tout l'aspect de vie contemplative, tout l'aspect de la vie de l'Église comme telle, de la doctrine, tombe et on ne voit plus que des aspects apologétiques. On ne s'intéresse plus que à l'aspect missionnaire. C'est très bien de s'intéresser à l'aspect missionnaire, mais il y a autre chose dans l'Église. Et quand le Saint-Père demande la seconde évangélisation, c'est ça que le Saint-Père rappelle. Et s'il éprouve le besoin de dire ça, c'est parce que justement on a vu oublié. Parce qu'on voit trop l'aspect périphérique et qu'on ne voit plus assez l'aspect contemplatif. Donc, ceci c'est pour vous rappeler un peu, au moins se poser la question des dates. Apocalypse, premier épître, l'Évangile. Il est facile de comprendre que l'Apocalypse, c'est le livre de l'espérance. Que la première épître, c'est le livre de la charité fraternelle. Et que l'Évangile, c'est la foi vivante et contemplative, le prologue. Autrement dit, quand je prends les écrits johanniques, ces trois grands écrits johanniques, c'est tout l'aspect de notre vie divine, de foi, d'espérance et de charité, qui demande d'être entièrement renouvelé. C'est pas du tout en opposition avec les écrits pauliniens. C'est pas du tout en opposition avec les synoptiques. Mais ça représente quelque chose de nouveau qu'on ne peut pas nier. Il y a dans l'évangile de Jean, comparativement aux synoptiques, il y a dans l'Apocalypse, comparativement aux écrits pauliniens et la première épître de saint Jean, quelque chose de nouveau. Et c'est ce quelque chose de nouveau que nous devons essayer de comprendre le mieux possible. Pas par souci de dire du nouveau, mais par fidélité à notre père saint Jean. Si vraiment nous considérons que saint Jean est notre père, et je crois que ce serait une grosse infidélité de ne pas le considérer comme notre père. Si vraiment nous considérons saint Jean comme notre père, il faut que nous ayons vis-à-vis de lui une piété filiale. Que nous le considérions vraiment comme père. Et donc, que nous lui demandions constamment conseil pour entrer dans ce qu'il veut nous donner. Et nous devons lui demander ça, oui, dans la prière. Parce qu'on tente uniquement de dire oui, c'est très révélation de Jésus-Christ. Apocalypse. Révélation de Jésus-Christ. C'est donc une lumière directe d'éternité dans le temps. C'est pas un livre historique. Et c'est un livre qui ne nous révèle pas du tout à quelle date sera le retour du Christ. Et c'est un livre qui nous apprend à être vigilants. C'est-à-dire ne pas nous endormir. Et que le Christ ne revienne pas pour nous comme un voleur. Mais que le Christ revienne pour nous dans une attente. C'est ça l'espérance eschatologique. C'est de nous maintenir dans l'état de vigilance. Pas nous endormir. On fait ça si facilement. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses esclaves ce qui doit arriver bientôt, bien vite. Voilà le but de l'Apocalypse. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée, à Jean. Pour montrer à ses disciples, à ses esclaves, ce qui doit arriver bientôt. Alors, n'oubliez jamais que Jean dit ça et que le bientôt de l'Apocalypse est de plus en plus actuel. Ça, vérité de la balise. Donc, l'Apocalypse est plus pour nous qu'elle ne l'a été pour Jean. Et qu'elle ne l'a été pour Thomas d'Aquin. Et donc, on doit prendre conscience de ça. Et si justement, on n'est pas attentif à l'Apocalypse, c'est un peu dommage. Et il l'a signifié par l'envoi de son ange à son esclave Jean. La parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu d'une vision. Du reste, l'Apocalypse était une vision, c'est une vision et en même temps c'est une vision qui implique d'entendre. Alors ce qui est très curieux, heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de cette prophétie et garde ce qui s'y trouve écrit. Car le temps est proche. Il n'y a pas beaucoup de livres dans l'Écriture où on dit « heureux celui qui lit ». Ça que je dis, hein. C'est une drogue divine. Heureux, ça nous rend heureux. Et puis ça ne passe pas, ce qui est mieux. Mais ça va jusqu'au ciel. Les autres drogues, ça ne passe. Hein. Tandis que là, « heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles ». On nous promet la béatitude. Je crois que c'est le seul livre. C'est assez étonnant, du reste. Et garde ce qui s'y trouve écrit. Car le temps est proche. Donc, c'est pour nous inviter à lire, et à lire attentivement, à écouter, à garder. Garder la parole, la bonne terre qui garde la parole de Dieu. À garder ce qui s'y trouve écrit. Donc, garder la parole de Dieu, c'est pas simplement l'écouter. C'est la garder dans la bonne terre. Pour qu'elle fructifie, pour qu'elle porte tous ses fruits. Et pour qu'elle soit reçue, justement, comme une parole qui doit fructifier. Le Père Hostie souligne quand il dit garder, c'est-à-dire retenir et observer. Et c'est ça, je crois, qui traduit bien garder la parole de Dieu. C'est retenir et observer, c'est-à-dire la passer en pratique. de la ville sainte qui sont décrites dans ce livre. C'est très étonnant. Car aux rapines, car à ceux qui veulent expliquer l'évangile en prenant une paire de ciseaux. C'est quand même très étonnant. C'est dit. Et je crois que c'est dit pour toute la révélation. C'est dit spécialement, évidemment, pour l'Apocalypse. Parce qu'on serait tenté. Vous allez voir de temps en temps l'illogisme extraordinaire de l'Apocalypse. Il y a un illogisme au début de la Genèse. Il y a un illogisme à la fin. C'est pas étonnant. Pour Platon, les commencements et les fins, on doit les donner sous un style mythique. Le logos ne suffit plus, il faut le mythe. Alors, quand on regarde le début de l'écriture, de la révélation, les 11 premiers chapitres de la Genèse, le déluge étant compris dedans, les 11 premiers chapitres de la Genèse, et puis le terme de l'humanité quand même, il y a le commencement et le terme de l'humanité. Et l'Apocalypse nous montre le terme de l'humanité sur la Terre. Qu'est-ce que va devenir notre petite planète? C'est quand même intéressant. Très intéressant de s'intéresser au déluge, mais c'est encore beaucoup plus intéressant de s'intéresser à ce que deviendra notre petite planète. C'est vrai, c'est encore beaucoup plus capital. Qu'est-ce que ça va devenir? L'Apocalypse nous en parle. Dans un langage symbolique et sous une forme mythique, mais d'un mythe divin. C'est pas un mythe uniquement humain. Oui, comme c'est curieux, parce que Platon invente les mythes pour le commencement et le terme. Et la révélation nous donne le commencement et le terme de la race humaine, de notre race. Alors si on savait avec précision, où l'on en est, ça nous donnerait peut-être de temps en temps une espèce de coup de fouet extraordinaire. Si vous disiez plus que 5 ans, bientôt 5 ans, qu'est-ce que vous feriez? Dans 5 ans, le retour du Christ, on s'approche, je vais, bientôt. Le bientôt, c'est pour que nous considérions chacun d'entre nous que c'est bientôt. Il est écrit dans un bienheureux dominicain dans son oraison qu'il s'est sanctifié en considérant chacune de ses journées comme la dernière et comme le Christ devant revenir à la fin de la journée. Il vivait de l'espérance eschatologique. C'est très vrai qu'il y a des quantités de problèmes qui dégringoleraient si on disait que ce soir, à minuit, le Christ revient. Où est-ce que vous seriez en dessous de votre lit? J'ai peur. Et au fond, c'est le réalisme chrétien, ça. Le réalisme chrétien va jusque-là. Puisqu'on ne sait pas quand il revient, donc il peut revenir ce soir. Et c'est pas fou de dire ça. C'est beaucoup plus réel. Dire le nom de Dieu, ben non, il faut encore du temps. Bientôt. C'est ça qui nous est dit. Et le bientôt divin est pour notre espérance chrétienne. C'est peut-être pour ça qu'on a peur de lire l'Apocalypse. On a toujours un tout petit peu peur de regarder le retour du Christ. C'est très curieux, mais on a toujours un petit peu peur. Alors que ça devrait être notre grande joie. On est chrétien pour ça. En définitive, on est chrétien pour attendre le retour du Christ. Et la plus belle situation, c'est de recevoir le retour du Christ. Je crois que les deux grands moments, c'était l'aurore et le crépuscule. Il est dit l'aurore aux doigts de rose. au doigt d'or, tandis que crépuscule est toujours un peu plus dur. Toujours. L'aurore, c'est toujours. C'est vrai, l'élevé de soleil, c'est paisible. Les couchers de soleil sont invisibles. Le point de départ est le terme de notre chemin. Mais voyez, c'est quand même très important de voir que Saint Jean, le vieux Saint Jean, reçoit cette révélation comme une révélation, c'est-à-dire dans la gratuité absolue, et en soulignant, ah, ne modifiez rien, ne changez rien. Il faut ce discernement extraordinaire. Ce saint qui dit ne changez rien, c'est de Dieu, c'est du Christ. Alors voyez, il a signifié par l'envoi de son ange, évidemment exégétiquement je ne peux pas dire plus, mais au plan spirituel je peux peut-être aller un peu plus loin. Si je lis l'Apocalypse dans la lumière de l'évangile de Saint Jean, Marie est la reine des anges. J'ai regardé dans les litanies de la Sainte Vierge. C'est de la dévotion, mais c'est de la bonne dévotion. C'est une dévotion qu'on doit garder, celle-là. C'est la dévotion d'Église, ce n'est pas des dévotions particulières. C'est de la bonne dévotion. Marie est la reine des anges. Alors je me demande toujours. Je ne l'ai pas demandé à Marthe, j'aurais dû lui demander. Je sais bien ce qu'elle m'aurait dit. Elle m'a dit, mais c'est évident. Il l'a signifié par l'envoi de son ange à son esclave Jean. La délicatesse de Jésus par rapport à Jean, c'est de lui envoyer la reine des anges. C'est donc Marie. Et je crois bien que c'est Marie. Vous voyez, c'est très très fort parce que c'est la médiation de Marie. Au niveau prophétique. Et je crois que c'est peut-être cela qui nous fait comprendre comment elle est reine. Vous verrez. Dans l'Apocalypse, il y a toute la théologie de Marie reine. Il ne faut pas que Marie reine repose sur la dévotion. C'est lamentable, ça. Il faut que ça repose sur l'Apocalypse. Et une théologie. Parce que c'est grand, mais c'est vrai que c'est très étonnant que Marie reine, au point de vue liturgique, ça, je demande ça aux liturgistes, c'est assez récent. Est-ce qu'il y avait dans leur ancienne liturgie, les très anciennes liturgies, Marie reine? Ce serait intéressant de voir ça, étant donné que ça nous montrerait que l'Église a pris conscience que Marie était spécialement appelée à nous révéler le terme, à agir sur le terme. C'est pour ça que ce n'est pas indifférent du tout d'essayer de comprendre. Il l'a signifié par l'envoi de son ange. Vous comprenez bien, et c'est pas n'importe quel ange, quoi. Et l'anonymat est d'autant plus maître ici. On ne dit pas lequel, on ne dit pas un ange au zénith. Alors on signale, parce qu'il y a toute une théologie des anges qui est très très forte dans l'Apocalypse. Donc, ça a l'air d'être tout simplement celui qui est hebdomadier. La semaine où il doit être hebdomadier. Alors là, allez, envoyez à Jean. Je crois pas. Je crois que c'est une grande fête d'envoyer cette grande révélation à Jean. Je crois que c'est la reine. C'est la reine. Parce que ces secrets que Jésus révèle aux anges, si proche de Jean. Il faut, je crois, pour lire l'Apocalypse, que Marie soit présente. Et c'est parce que peut-être qu'on ne tient pas assez compte de ça qu'on a peur de lire l'Apocalypse. Alors que si on le lit dans la lumière de Marie, ça change tout. Il y a une médiation, il y a une modalité particulière. Toutes les révélations qui passent par Marie, où Marie est vraiment la reine des anges, reine des prophètes, il y a quelque chose de spécial. Lequel, donc, le disciple Jean, lequel a attesté la parole de Dieu, le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Alors, toujours dans l'Apocalypse, les deux. Et ça aussi, c'est très intéressant à souligner. Il y a la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. Donc, vous retrouvez parole et geste. Vous ne pouvez pas être témoin sans le geste. Et donc vous retrouvez au terme ce que je vous ai dit, qu'on retrouve au point de départ et auquel on doit être très attentif quand on lit l'Écriture. Le mystère de la parole et le mystère du geste. Et les deux doivent toujours être complémentaires. La parole et le témoignage. Or, vous n'êtes pas témoin, vous êtes témoin par les gestes. Par votre personne. C'est la personne qui témoigne. Et pas seulement la parole. Alors, il nous est promis cette béatitude. Jean aux sept églises qui sont en Asie. Jean ne peut pas parler comme le souverain pontife, comme Pierre à l'Église universelle. Un évêque particulier ne peut pas parler à toute l'Église. Un évêque particulier ne parle qu'à ses églises. Jean parle à ses sept églises. Vous voyez, l'humilité de Jean, et en même temps, ce qui est très important pour nous, ça nous fait comprendre justement. Jean a été l'apôtre de ces sept églises. Ces sept églises qui sont en Asie mineure. À vous grâce et paix de la part de celui qui est, celui qui était et celui qui vient. Dans les psaumes, on parle de l'éternel. Dans l'Apocalypse, l'éternel, c'est celui qui est, c'est celui qui était, c'est celui qui vient. Le mystère de Dieu est vu à travers l'économie divine. Et ça, tout Apocalypse va nous donner ce sens de l'économie divine. L'éternité est présente à travers la succession des temps. Et ça, ça nous fait tout de suite comprendre l'éclairage de l'Apocalypse. De la part de celui qui est, de celui qui était, de celui qui vient. De la part des sept esprits qui sont devant son trône. Jean parle au nom du Père, celui qui est, celui qui était, celui qui vient. C'est le Père. C'est l'Éternel. Et de la part des sept esprits qui sont devant son trône, parce que celui qui est, c'est celui qui est assis sur le trône. Le Père et les sept esprits. Il parle au nom des sept esprits de Dieu. Là encore, vous voyez, l'Esprit Saint est vu à travers les sept esprits. C'est pour ça qu'on peut dire, vous voyez, que l'évangile de Jean nous donne une vision de la très sainte Trinité regardée en elle-même. Et l'Apocalypse nous donne une théologie des missions divines. C'est la théologie des missions. C'est la théologie de l'économie divine. cette manière-là. À ce point de vue-là, c'est merveilleux comme complémentarité. Évidemment, la vision de saint Thomas est beaucoup plus proche de la vision de la très sainte Trinité vue en elle-même. Comme le Concile nous demande de reprendre tout dans la perspective de l'économie du salut, l'Apocalypse devient nécessaire pour nous. C'est dans l'Apocalypse que nous découvrons une théologie des missions. Et de la part des sept esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, et le chef des rois de la terre. Donc, il parle au nom des trois. Et regardez l'ordre des trois. Le Père, les sept esprits, Jésus-Christ. Alors, pensez à l'Église orthodoxe. Et ça, nous le reverrons tout le temps. C'est toujours cet ordre-là qui est donné. Le Père, les sept esprits, le Christ. Tandis que si vous regardez dans l'évangile de Saint Jean et l'Apocalypse, le prologue, vous avez le Père, le Verbe et l'Esprit Saint, le Paraclet viendra vers Dieu. Tandis qu'ici, le Père, les sept esprits et le Christ. L'ordre est différent. Ici, vous avez un ordre selon les missions. Ici, vous avez un ordre contemplatif. Et c'est très intéressant parce que ça, c'est... On voit très bien, l'Église d'Orient a pris l'ordre des missions. L'ordre des missions. Tandis que l'Église latine a pris cet ordre-là du prologue. Et je crois que c'est très important pour nous aujourd'hui, où justement... Nous devons essayer de comprendre ce rapprochement, de voir d'une façon très nette, dans la révélation elle-même, le fondement de ces deux ordres. Et rappeler, au plan philosophique, l'ordre de nature, l'ordre génétique. C'est très étonnant de voir ça. De voir que ces deux ordres-là sont donnés dans la révélation. Parce que la foi ne supprime pas le conditionnement de notre intelligence. Notre conditionnement humain n'est pas changé par la foi. Nous restons des hommes avec notre manière de penser. Et selon notre manière de penser, il y a toujours l'ordre de nature et l'ordre génétique. Et jusque dans la révélation de la très sainte Trinité, vous avez ces deux révélations. Alors là, c'est très important pour nous de le saisir et d'essayer de le comprendre jusqu'au bout. Vous voyez que Jésus est présenté dans ces trois grands mystères. La croix, le témoin fidèle, la résurrection, le premier-né des morts et la cession à la droite du Père, le chef des rois de la terre. Voilà les trois grands mystères qui terminent la vie de Jésus. Donc apocalyptique, les trois grands mystères. La croix, la résurrection, la cession à la droite du Père. Vous voyez comme tout ça est... On voit très bien cette précision étonnante. Rien n'est laissé au hasard. C'est une vision théologique. Et Jean s'adresse aux sept églises de la part de la très sainte Trinité. Mais il ne dit pas de la très sainte Trinité. Il dit de la part de celui qui est, de celui qui était, celui qui vient, de la part des sept esprits. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le chef des rois de la terre. Donc c'est vraiment de la part des trois. Révélation trinitaire. C'est très important pour nous. Révélation trinitaire. Par la médiation de la reine des anges et de la reine des prophètes. à celui qui nous aime et nous a délié nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des prêtres pour son Dieu et Père. À lui la gloire et la domination pour les éternités.